Kaufmännische Berufsmatura 2014, Französisch, Hörverstehen. An alle Aufsichtspersonen verteilen Sie jetzt die Frageblätter zum Prüfungsteil Hörverstehen. Sie haben dafür 1 Minute und 30 Sekunden Zeit. Die Kandidatinnen und Kandidaten schreiben ihren Namen, Vornamen und so weiter auf die erste Seite des Bogens. Achtung! Erst wenn auf dem Tonträger Französisch gesprochen wird, darf der Bogen Hörverstehen geöffnet werden. Maturité professionnelle 2014, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Texte 1. Interview avec Benoît Moreillon. Vous entendrez l'enregistrement 2 fois en une partie. Vous avez maintenant 1 minute et 30 secondes pour lire les questions et les affirmations des pages 1 et 2. Première écoute du texte.
Benoît Moreillon, Diablox 9, est une véritable star du web. Sa chaîne YouTube dédiée aux jeux vidéo compte plus d'un million d'abonnés. Un record qui fait de ce jeune homme de 20 ans un des Suisses les plus influents. Benoît Moreillon, bonjour. Au début de l'année 2012, vous avez quitté l'école de commerce pour vous consacrer à 100% à votre chaîne YouTube. Une décision qui demande un certain courage.
C'était un choix très difficile. Je sentais que mes vidéos commençaient à occuper une très grande partie de mon temps. Au lieu d'exercer 2 activités en même temps, j'ai préféré me consacrer entièrement à ma passion.
Quelle a été la réaction de vos parents ?
Depuis très jeune, je fais preuve d'une grande indépendance. À l'âge de 19 ans, je me sentais prêt à gérer mon affaire. Mes parents m'ont donc fait confiance et m'ont encouragé.
Comment cette passion a-t-elle débuté ?
Depuis l'âge de 12 ans, je fréquente les sites web consacrés aux jeux vidéo. J'y ai découvert les gaming live, c'est-à-dire qu'on filme l'écran pendant qu'on joue, on y ajoute des commentaires audio et on poste la vidéo sur Internet. Cela m'a tout de suite donné envie de faire la même chose. Donc, en 2007, à 13 ans, j'ai créé ma première chaîne. Je filmais mon écran d'ordinateur ou ma télé à l'aide d'un petit appareil photo posé sur un tas de livres. Puis, en février 2010, j'ai créé ma chaîne YouTube.
Où avez-vous appris à réaliser des vidéos ?
Je suis complètement autodidacte. Je fais mes vidéos moi-même. Mais je collabore également avec un ami sur certains projets.
Comment expliquez-vous votre succès ?
D'abord parce que je réalise ces vidéos par pur plaisir. C'est ce qui me distingue des autres. Et puis aussi parce que les autres internautes postaient jusque-là des vidéos avec une bande audio en français, mais qui apparaissaient sur YouTube avec des titres et des descriptions rédigées en anglais. Moi, j'ai fait le choix inverse et je me suis consacré uniquement au public francophone. Et ça a marché. L'audience est montée lentement, puis a explosé pour atteindre aujourd'hui 1,2 million d'abonnés. C'est alors que j'ai pu collaborer avec les grands éditeurs de jeux vidéo.
Un travail qui implique de fréquents déplacements.
J'ai en effet énormément bougé l'année passée. D'abord pour le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles au mois de juin. Puis, en novembre, je me suis rendu à San Francisco pour visiter les studios de développement d'un nouveau jeu. D'autres voyages m'ont mené à Montréal, Madrid, Lyon. Tout cela en une année. Mais je ne vais pas me plaindre, je vis mon rêve.
Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue ?
Dans ma région, la plupart des gens savent déjà ce que je fais. Je suis donc plutôt tranquille. Mais lorsque je me balade en France, par exemple, on m'accoste beaucoup plus fréquemment. Il arrive qu'on me reconnaisse juste en entendant ma voix. Certains osent venir me parler et me demandent parfois de poser en photo avec eux. Un jour où je suis allé chercher mon petit frère à l'école, ses camarades m'attendaient pour que je leur signe des autographes. Ça m'a beaucoup touché.
Selon vous, quel sera l'avenir des jeux vidéo ?
Certains pensent que les nouvelles consoles qui arriveront bientôt sur le marché ne se vendront pas aussi bien que les précédentes. Moi, je pense qu'il s'agit d'une question de génération. Les jeunes qui ont entre 12 et 16 ans aujourd'hui se réjouissent autant de l'arrivée de ces consoles que je me suis réjoui moi-même de l'arrivée de la PlayStation 3.
Quels sont vos projets aujourd'hui ?
Je réfléchis à l'amélioration de la qualité de mes vidéos. J'aimerais aussi revoir la présentation de ma chaîne YouTube et donc changer son design et son logo. Sinon, l'autre objectif est de réaliser de nouveaux voyages.
Et dans quelques années, comment imaginez-vous votre profession ?
Aujourd'hui, mon travail me passionne et il se trouve que j'ai la chance de pouvoir en vivre. Il est difficile d'imaginer autre chose pour l'instant. L'idée est bien sûr de me professionnaliser dans la démarche et je verrai bien où cela me mène. Dans tous les cas, je saurai rebondir sur quelque chose d'intéressant.
Benoît Morellon, merci et bonne chance.
Vous avez une minute pour répondre aux questions des pages 1 et 2. Deuxième écoute du texte 1.
Benoît Morellon, Diablox 9, est une véritable star du web. Sa chaîne YouTube dédiée aux jeux vidéo compte plus d'un million d'abonnés. Un record qui fait de ce jeune homme de 20 ans un des Suisses les plus influents. Benoît Morellon, bonjour. Au début de l'année 2012, vous avez quitté l'école de commerce pour vous consacrer à 100% à votre chaîne YouTube. Une décision qui demande un certain courage.
C'était un choix très difficile. Je sentais que mes vidéos commençaient à occuper une très grande partie de mon temps. Au lieu d'exercer deux activités en même temps, j'ai préféré me consacrer entièrement à ma passion.
Quelle a été la réaction de vos parents ?
Depuis très jeune, je fais preuve d'une grande indépendance. À l'âge de 19 ans, je me sentais prêt à gérer mon affaire. Mes parents m'ont donc fait confiance et m'ont encouragé.
Comment cette passion a-t-elle débuté ?
Depuis l'âge de 12 ans, je fréquente les sites web consacrés aux jeux vidéo. J'y ai découvert les Gaming Live, c'est-à-dire qu'on filme l'écran pendant qu'on joue, on y ajoute des commentaires audio et on poste la vidéo sur Internet. Cela m'a tout de suite donné envie de faire la même chose. Donc, en 2007, à 13 ans, j'ai créé ma première chaîne. Je filmais mon écran d'ordinateur ou ma télé à l'aide d'un petit appareil photo posé sur un tas de livres. Puis, en février 2010, j'ai créé ma chaîne YouTube.
Où avez-vous appris à réaliser des vidéos ?
Je suis complètement autodidacte. Je fais mes vidéos moi-même. Mais je collabore également avec un ami sur certains projets.
Comment expliquez-vous votre succès ?
D'abord parce que je réalise ces vidéos par pur plaisir. C'est ce qui me distingue des autres. Et puis aussi parce que les autres internautes postaient jusque-là des vidéos avec une bande audio en français, mais qui apparaissaient sur YouTube avec des titres et des descriptions rédigées en anglais. Moi, j'ai fait le choix inverse et je me suis consacré uniquement au public francophone. Et ça a marché. L'audience est montée lentement, puis a explosé pour atteindre aujourd'hui 1,2 million d'abonnés. C'est alors que j'ai pu collaborer avec les grands éditeurs de jeux vidéo.
Un travail qui implique de fréquents déplacements.
J'ai en effet énormément bougé l'année passée. D'abord pour le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles au mois de juin. Puis, en novembre, je me suis rendu à San Francisco pour visiter les studios de développement d'un nouveau jeu. D'autres voyages m'ont mené à Montréal, Madrid, Lyon. Tout cela en une année. Mais je ne vais pas me plaindre, je vis mon rêve.
Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue ?
Dans ma région, la plupart des gens savent déjà ce que je fais. Je suis donc plutôt tranquille. Mais lorsque je me balade en France, par exemple, on m'accoste beaucoup plus fréquemment. Il arrive qu'on me reconnaisse juste en entendant ma voix. Certains osent venir me parler et me demandent parfois de poser en photo avec eux. Un jour où je suis allé chercher mon petit frère à l'école, ses camarades m'attendaient pour que je leur signe des autographes. Ça m'a beaucoup touché.
Selon vous, quel sera l'avenir des jeux vidéo ?
Certains pensent que les nouvelles consoles qui arriveront bientôt sur le marché ne se vendront pas aussi bien que les précédentes. Moi, je pense qu'il s'agit d'une question de génération. Les jeunes qui ont entre 12 et 16 ans aujourd'hui se réjouissent autant de l'arrivée de ces consoles que je me suis réjoui moi-même de l'arrivée de la PlayStation 3.
Quels sont vos projets aujourd'hui ?
Je réfléchis à l'amélioration de la qualité de mes vidéos. J'aimerais aussi revoir la présentation de ma chaîne YouTube et donc changer son design et son logo. Sinon, l'autre objectif est de réaliser de nouveaux voyages.
Et dans quelques années, comment imaginez-vous votre profession ?
Aujourd'hui, mon travail me passionne et il se trouve que j'ai la chance de pouvoir en vivre. Il est difficile d'imaginer autre chose pour l'instant. L'idée est bien sûr de me professionnaliser dans la démarche et je verrai bien où cela me mène. Dans tous les cas, je saurai rebondir sur quelque chose d'intéressant.
Benoît Morellon, merci et bonne chance.
Vous avez une minute pour répondre aux questions des pages 1 et 2. Nous passons maintenant au texte 2. Interview avec Jean-Didier Urbain. Vous entendrez l'enregistrement en deux parties. D'abord la première partie du texte 2, deux fois, et ensuite la deuxième partie du texte 2, que vous allez également entendre deux fois. Vous avez une minute pour lire les questions et les affirmations de la page 3. Première écoute de la première partie du texte 2.
Jean-Didier Urbain, né à Lille le 1er août 1951, est sociologue et anthropologue et enseigne à l'Université Paris-Descartes. En 1991, son livre « L'idiot du voyage » fait de lui un spécialiste du thème du tourisme. En effet, il se penche depuis de nombreuses années sur les touristes et leurs comportements. Jean-Didier Urbain, bonjour. Pourquoi a-t-on pris l'habitude dans nos sociétés de voyager ?
Les hommes ont d'abord voyagé pour assurer leur survie, c'est-à-dire pour des raisons alimentaires, sécuritaires et professionnelles. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous le faisons simplement par pur plaisir. Mais cette réponse ne suffit pas. D'abord, nous aimons les voyages parce qu'on veut s'échapper des règles de la vie de tous les jours. Ensuite, s'éloigner de son lieu de résidence, ça veut dire qu'on s'expose à l'inconnu et qu'on rencontre l'autre. Voyager est une expérience qui permet de mieux comprendre le monde et d'apprendre la relativité des choses. J'estime donc qu'il est important de voyager dès que possible et le plus souvent possible.
Comment choisit-on sa destination ?
Autrefois, on optait pour un lieu plutôt qu'un autre selon les attractions qu'il proposait, ses monuments, son paysage. Maintenant, on veut qu'une destination soit porteuse d'histoire, de romance ou de fiction. Les destinations sans symbole fort ont donc beaucoup de peine à exister. Les villes touristiques comme Paris, Rome ou Venise n'ont aucun problème. Cela est plus difficile en revanche pour les nouvelles destinations touristiques. Angoulême, par exemple, n'attirait pas spécialement les touristes. Le problème a été résolu depuis que le Festival international de la BD s'y déroule chaque année.
Vous faites clairement la distinction entre vacances et voyages.
Ces termes sont souvent utilisés comme synonymes. Pourtant, on peut très bien avoir congé et ne pas partir de chez soi. De la même manière, on a pris l'habitude de qualifier de « touriste » toute personne qui se trouve en dehors de chez elle. Ce n'est pas correct. Le « touriste » signifie « celui qui fait un tour », donc une personne mobile.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux affirmations de la page 3. Deuxième écoute de la première partie du texte 2.
Jean-Didier Urbain, né à Lille le 1er août 1951, est sociologue et anthropologue et enseigne à l'Université Paris-Descartes. En 1991, son livre « L'idiot du voyage » fait de lui un spécialiste du thème du tourisme. En effet, il se penche depuis de nombreuses années sur les touristes et leurs comportements. Jean-Didier Urbain, bonjour. Pourquoi a-t-on pris l'habitude dans nos sociétés de voyager ?
Les hommes ont d'abord voyagé pour assurer leur survie, c'est-à-dire pour des raisons alimentaires, sécuritaires et professionnelles. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous le faisons simplement par pur plaisir. Mais cette réponse ne suffit pas. D'abord, nous aimons les voyages parce qu'on veut s'échapper des règles de la vie de tous les jours. Ensuite, s'éloigner de son lieu de résidence, ça veut dire qu'on s'expose à l'inconnu et qu'on rencontre l'autre. Voyager est une expérience qui permet de mieux comprendre le monde et d'apprendre la relativité des choses. J'estime donc qu'il est important de voyager dès que possible et le plus souvent possible.
Comment choisit-on sa destination ?
Autrefois, on optait pour un lieu plutôt qu'un autre selon les attractions qu'il proposait, ses monuments, son paysage. Maintenant, on veut qu'une destination soit porteuse d'histoire, de romance ou de fiction. Les destinations sans symbole fort ont donc beaucoup de peine à exister. Les villes touristiques comme Paris, Rome ou Venise n'ont aucun problème. Cela est plus difficile en revanche pour les nouvelles destinations touristiques. Angoulême, par exemple, n'attirait pas spécialement les touristes. Le problème a été résolu depuis que le Festival international de la BD s'y déroule chaque année.
Vous faites clairement la distinction entre vacances et voyages.
Ces termes sont souvent utilisés comme synonymes. Pourtant, on peut très bien avoir congé et ne pas partir de chez soi. De la même manière, on a pris l'habitude de qualifier de « touriste » toute personne qui se trouve en dehors de chez elle. Ce n'est pas correct. Le « touriste » signifie « celui qui fait un tour », donc une personne mobile.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses à la page 3. Nous passons maintenant à la deuxième partie du texte 2. Vous avez une minute pour lire les questions et les affirmations de la page 4. Première écoute de la deuxième partie du texte 2.
Malgré la crise économique, la population continue à voyager. Est-ce que bouger est devenu un besoin dans notre société ?
Il y a encore 30 ans, lorsque les familles avaient des problèmes d'argent, elles ne voyageaient pas. Aujourd'hui, on préfère économiser sur la nourriture, les vêtements ou l'électroménager. La pratique du voyage est devenue un standard culturel. Lorsque la crise a débuté il y a 8 ans, beaucoup de Français n'ont pas modifié leur comportement. Mais aujourd'hui, à cause de la période de récession qui perdure, certains ménages sont obligés de réduire leur budget voyage.
Est-ce que le nombre de départs est en baisse?
Pas vraiment. On ne peut pas dire que le nombre de départs est en baisse. Mais aujourd'hui, on ne passe plus par les agences de voyage. On réserve ses vacances directement sur Internet. Il y a aussi les échanges d'appartements ou de maisons. Ou alors, on voyage en groupe de 8 à 10 personnes et on partage les frais. Parfois, les familles décident également de partir en même temps que les grands-parents pour que ces derniers financent une partie du voyage.
Internet permet d'explorer le monde en images depuis son domicile. Donc, pourquoi voyageons-nous toujours autant?
Même avec les webcams qui diffusent des images en temps réel, on ne se retrouvera jamais face à l'autre. Le voyage virtuel ne pourra donc jamais remplacer l'expérience réelle. Mais les nouvelles technologies ont plutôt tendance aujourd'hui à rendre les excursions moins intéressantes. Autrefois, voyager, c'était le bonheur de disparaître. Maintenant, nous restons continuellement connectés avec notre famille ou nos amis, même à l'autre bout du monde. Le lien est toujours assuré. Et nous n'avons plus ce même plaisir à réapparaître parmi les nôtres à la fin de notre aventure.
Jean-Didier Urbain, merci pour cette interview.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de la page 4. Deuxième écoute de la deuxième partie du texte 2.
Malgré la crise économique, la population continue à voyager. Est-ce que bouger est devenu un besoin dans notre société?
Il y a encore 30 ans, lorsque les familles avaient des problèmes d'argent, elles ne voyageaient pas. Aujourd'hui, on préfère économiser sur la nourriture, les vêtements ou l'électroménager. La pratique du voyage est devenue un standard culturel. Lorsque la crise a débuté il y a 8 ans, beaucoup de Français n'ont pas modifié leur comportement. Mais aujourd'hui, à cause de la période de récession qui perdure, certains ménages sont obligés de réduire leur budget voyage.
Est-ce que le nombre de départs est en baisse?
Pas vraiment. On ne peut pas dire que le nombre de départs est en baisse. Mais aujourd'hui, on ne passe plus par les agences de voyage. On réserve ses vacances directement sur Internet. Il y a aussi les échanges d'appartements ou de maisons. Ou alors, on voyage en groupe de 8 à 10 personnes et on partage les frais. Parfois, les familles décident également de partir en même temps que les grands-parents pour que ces derniers financent une partie du voyage.
Internet permet d'explorer le monde en images depuis son domicile. Donc, pourquoi voyageons-nous toujours autant?
Même avec les webcams qui diffusent des images en temps réel, on ne se retrouvera jamais face à l'autre. Le voyage virtuel ne pourra donc jamais remplacer l'expérience réelle. Mais les nouvelles technologies ont plutôt tendance aujourd'hui à rendre les excursions moins intéressantes. Autrefois, voyager, c'était le bonheur de disparaître. Maintenant, nous restons continuellement connectés avec notre famille ou nos amis, même à l'autre bout du monde. Le lien est toujours assuré. Et nous n'avons plus ce même plaisir à réapparaître parmi les nôtres à la fin de notre aventure.
Jean-Didier Urbain, merci pour cette interview.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses à la page 4. Fin de l'examen de compréhension auditive.